Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le journal des auditeurs. Chaque jour, vous avez la parole dans le JDA pour commenter et débattre de l'actualité. Aujourd'hui, pas de sujet imposé, c'est vendredi, c'est la libre antenne, c'est vous qui faites le sommaire. Nous reviendrons notamment sur l'actualité ivoirienne avec cette rencontre entre Gbagbo et Bédier. Nous parlerons aussi de la nouvelle alliance politique en Guinée ou encore des intempéries. Pour participer, c'est simple, le numéro c'est le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également vous inscrire sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Mais avant de vous écouter en direct, direction le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour, Madame Stéphanie. Je vous appelle pour réagir à propos du sujet du jour. Je suis contre le vaccin obligatoire et ce que Macron fait avec son gouvernement pour contraindre les gens à recevoir ce vaccin. Le vaccin doit être volontaire et il doit chercher à aussi d'autres moyens de combattre le virus. Ce n'est pas seulement le vaccin impérativement, parce que j'ai suivi son allocution, il n'a pas parlé d'autres moyens pour combattre le virus. Lui, il a parlé que du vaccin. Qu'est-ce qui se cache derrière ce vaccin qui devient totalement politique?
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis des JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo et le RCK. Nous croyons plus à la parole du président béninois, Patrick Talon, qui avait dit il ne fera pas le deuxième mandat, mais nous avons vu qu'il a fait le deuxième mandat. Mais nous voyons l'obscurité de la démocratie au Bénin parce qu'il y a ils ont arrêté l'opposante qui était candidate à la présidence. Mais nous demandons seulement la libération de l'opposant et de l'ancienne candidate aux élections présidentielles pour que le Bénin retrouve qu'il soit une miroir de la démocratie en Afrique et nous, les Africains, on croyait à la démocratie dans ces pays que les Africains aiment beaucoup. Nous voulons que Patrice Talon soit un démocrate et nous allons voir, comme il nous a dit, il ne sera pas le troisième mandat.
Oui, bonjour, bonjour à tous, c'est M. Amani. Draman Alassane Ouattara, le plus grand économiste que la Côte d'Ivoire ait connu, qui a relevé l'économie du Japon et de l'Inde, selon lui-même. Aujourd'hui, le coût de la vie en Côte d'Ivoire est exorbitant. La Côte d'Ivoire est endettée à plus de 17 000 milliards pour un grand économiste comme Draman Ouattara. Et oui, le mensonge quand il nous rattrape. Lorsqu'on a échoué lamentablement, on libère le tabouret. Bonne journée à tous. Au revoir.
Honte, ironie, témoignerie. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est malheureux. Une équipe autour de M. Henri Konan Bédier du parti DCI en Côte d'Ivoire demande que Henri Konan Bédier reçoive le prix Nobel de la paix. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour le monde ou pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Mais ceux qui ont reçu les prix Nobel ne sont pas présentés là-bas, en Norvège ou en Suède, pour aller demander des faveurs du comité Nobel. Des gens comme Nelson Mandela, même Barack Obama ou Albert Lituli, donc ils ont mérité, le docteur Mukwege. C'est par rapport à ses activités, par rapport à ses actes, par rapport au bien que tu apportes à ton peuple, à ton pays ou même à l'humanité. Qu'est-ce que M. Henri Konan Bédié a fait pour l'humanité ou pour l'Afrique, hein? Mais vraiment, ça c'est une imposture vraiment qui fait honte à l'Afrique, ça.
Afrique. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Nous ouvrons sans plus tarder cette libre antenne. Dans un instant, nous parlerons de la nouvelle alliance en Guinée, nouvelle alliance politique autour de Seydou d'Alain Diallo. Mais nous ouvrons cette libre antenne d'abord avec l'actualité. J'ai un trou de mémoire, pardon, l'actualité en Côte d'Ivoire, bien sûr, avec Gaoussou. Gaoussou, bonjour. Allô, Gaoussou.
Allô.
Bonjour, Gaoussou, on n'entend pas très bien, la ligne est un peu faible. Bienvenue, Gaoussou, depuis Abidjan. Vous voulez revenir, vous, sur la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédié, c'était... le week-end dernier, que pensez-vous de cette alliance?
Bon, cette alliance, je dirais, c'est une alliance, en tout cas, bon. Je ne vois pas l'importance de cette alliance, parce qu'il y a eu beaucoup d'alliances dans ces derniers temps. Bon, ça ne dit à rien, parce qu'il faut dire que ce qui est le plus important, c'est moi-même, là, c'est la réconciliation dont on avait assez parlé. Et que monsieur Laurent Gbagbo devait rentrer pour entamer cette réconciliation. Parce qu'il a été dit ici que Gbagbo, sans monsieur Gbagbo, il n'y aura pas de réconciliation. Bon, le fait qu'il est déjà rentré, en temps normal, ça devait être engagé en même temps. Pour mettre une vraie réconciliation en marche. Et on nous montre déjà une alliance. Bon, cette alliance, bon, c'est pas des ambitions politiques ou bien c'est quoi, on ne sait pas.
Dénoncer plutôt une alliance de circonstances, hein, si j'entends bien, Gaoussou. Hein.
Oui, bon, cette alliance de circonstances, bon, on ne voit pas de son importance, on ne voit pas de son utilité. Parce que ce qui est très utile, c'est que le pays est déjà en marche. Le pays travaille déjà, tout mal comme il se doit. Bon. Alors, il y a un problème même qui a été créé. M. Gbagbo, lui-même, il sait très bien que le FPI est déjà un président. Bon, quel parti se base pour avoir cette alliance, pour être président d'un parti?
C'est très clair, merci.
Il n'y a pas de parti qui le fâche.
On entend bien, Gaoussou. Alors, on entend bien. Je pense que voilà, vous êtes plutôt sceptique, hein, sur la durée de cette alliance, sur la viabilité, sur l'intérêt de cette alliance. Vous venez de dire, Gaoussou, et je vous remercie pour cette transition, parce qu'on va accueillir Michel dans un instant. Gaoussou, qui selon lui, hein, disait que Laurent Gbagbo n'avait pas de parti, puisque officiellement, selon la justice ivoirienne, le président du Front populaire ivoirien, c'est Pascal Affine Guessant. Merci, Gaoussou, d'avoir ouvert cette libre antenne, et on accueille du coup Michel. Michel, bonjour.
Bonjour, madame Atman.
Bonjour, Michel, bienvenue dans le JDA. Alors, vous justement, vous voulez revenir, hein, sur la guerre, hein, qui couve au FPI, entre Pascal Affine Guessant et Laurent Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo a nommé, hein, hier, je crois, Emmanuel Aka comme directeur de cabinet, se comportant comme s'il était président du FPI, et vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Je dis d'abord merci à mon précédenteur, comment il s'appelle, à Gaoussou. Il a bien parlé. Et je voudrais rappeler que M. Gbagbo est en train de provocation. Ils vont se retrouver en justice. Là, je suis en train de vous préciser, Gbagbo est au port de la prison. Il ne doit pas nommer un directeur de cabinet. Il dirait, qu'est-ce qui se passe? M. Gbagbo a demandé, d'abord, Afi a demandé une audience à Gbagbo avant d'aller à Daouko. Il a demandé à Kyotéa Narcisse, qui est son proche. Kyotéa travaille avec Gbagbo. Et d'organiser la rencontre. Ils vont se rencontrer. Alors, il revient, il nomme M. l'ambassadeur Aka Emmanuel, qui faisait déjà la navette entre Afi et Gbagbo. Alors, on ne comprend pas, il n'est pas le président. Et lui-même, Gbagbo, quand il était député en 1995, quand il était président, à l'Assemblée nationale, tous les députés ont voté une loi. S'il y a un problème dans un parti politique, la justice doit regarder. Et quand on vient, on regarde les tests. Quand on regarde les tests, c'est Afi qui est légalement le président du FPI. Gbagbo, il est le fondateur. Mais il a fini, c'est bon comme ça. Hein, il vient et il ruse derrière les gens. D'ailleurs, même son ancien ministre, Kaye Emmanuel, Kaye Eric, il est rentré de l'exil. Il a proposé pour son divorce à ce moment-là. Lui, dit de se réconcilier. Alors ils sont appelés par les anglais, ils viennent nous mettre encore, ils viennent nous mélanger. Alors, je rappelle à M. Babo, la dernière fois, Adam Cruz a dit, il faut respecter les textes. Il n'a qu'à respecter les textes du S, sinon il va à la prison. C'est-à-dire la justice va intervenir. Quand on va l'arrêter, on va nous dire, oui, Ouattara est déchant. Alors, il a fait une provoque. Voilà, il a géré, c'est fini. Son temps a passé. Hein, il a, en son temps, en 90, moi j'avais 17 ans, et il nous demandait même que vous fassiez jouer. On a crié sur le feu ici. Aujourd'hui, Dieu a fait que Babo n'est pas loin de ses 80 ans. En 2020, il a 80 ans, il est vieux. Alors, vous pouvez dédier, comment on appelle, mon président, qui est le plus jeune. Donc, il n'a pas accepté à se présenter. Alors, donc, ce n'est pas la peine de créer des palabres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je rappelle encore la dernière fois, il y a un auditeur, je crois, le mercredi, qui disait que Afi allait représenter Ouattara à l'étranger. Ce n'est pas vrai. La mort de Roger, il fait partie de lui. Du groupe socialiste, il a mis Afi à Babo. Il est décédé. Afi, il était interdit de sortir. Ahmed Bakayoko était premier ministre. Afi a demandé à Ahmed Bakayoko, le premier ministre, qu'il veut se parler au funérail. Donc, ils n'ont rien dit. À deux jours, le premier ministre Ahmed Bakayoko rappelle le président, tu vois, les gens, demain matin, ils doivent se rendre au Ghana au funérail de Roger pour t'apprêter tes bagages à l'aéroport.
On entend bien, Michel, on ne va pas revenir sur l'histoire. Ce que vous voulez dire, finalement, c'est voilà, c'était de courtoisie qu'il a accompagné
jusqu'à... Il travaille pour Ouattara. Afi devrait se rendre là-bas. Il était arrivé. Donc, il a vu le premier ministre. Quand il revient, les gens disent, oui, il allait représenter Ouattara. C'est n'est pas vrai. Afi a mis à Roli. Vous-même a mis à Roli. Donc, il passe. C'est comme ça, ils ont dit, bon, faut profiter pas. Donc, voilà la réalité.
Merci, Michel. Merci beaucoup. On entend bien, Michel. On va donner la parole aux autres auditeurs. Hein, mais on a bien entendu hein, votre point de vue hein, sur cette guerre. Hein. Fratricide, hein, j'ai envie de dire, hein, au front populaire ivoirien. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée à Abidjan. Vous nous écoutez hein, sur le 91.fm. Et il est 11h42. On continue de parler un peu de la Côte d'Ivoire avec Charles. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie et bonjour à votre auditeur.
Bonjour Charles, vous voulez revenir Charles, vous, sur justement cette rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédier. L'auditeur Gaoussou, hein, tout à l'heure, avait du mal à voir l'intérêt de cette rencontre. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que c'est de bonne augure, voilà, pour la démocratie et surtout voilà, pour la réconciliation. Mais je ne vois pas cette rapport sous forme de réconciliation. Je vois cette rapport sous forme de vengeance. Vous voyez, Bédié a fait l'alliance avec M. Ouattara voilà, pour chasser Gbagbo du pouvoir. Et M. Bédié a été trahi par M. Ouattara, si on doit dire ainsi. Maintenant, Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, il se réallie à M. Bédié voilà, pour faire chasser M. Ouattara du pouvoir. Vous voyez, nous avons l'expression que la Côte d'Ivoire est prise en otage par trois personnes, Ouattara, Bédié et Gbagbo. Mais cela, c'est la faute à la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui les accompagne dans leur aventure. Parce qu'arrivé à un moment donné, la jeunesse devait les laisser. Quand on dit de sortir dans la rue, vous refusez. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué. Nous avons un problème d'ethnie. Moi, j'assume mes propos. Nous avons un problème d'ethnie. Mais Daoulé soutient M. Bédié, les Doula, M. Ouattara, les Bédié, M.
Gbagbo.
Voilà, donc, M. Gbagbo. Maintenant, c'est un peu compliqué. Voilà, si c'était comme chez nous, au Burkina Faso, on a 60 ethnies. Voilà, chacun, on s'en fout de ton bord ethnique. On t'accompagne sur ton programme. Je crois que l'affaire Bédié ou Ouattara allait là, c'était fini. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Même les pays voisins aussi, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'attendre chaque fois les mêmes problèmes. Ça ne va pas arriver. Vous allez voir les élections qui vont arriver. Si M. Gbagbo prend encore le pouvoir, il va trahir M. Henri Konan Bédié pour se venger de Ouattara. Soit si c'est M. Bédié qui a pris aussi, il va trahir M. Gbagbo pour se venger de Ouattara. Vous voyez, c'est compliqué. Avec ça, comment vous voulez que le pays avance? Le pays ne peut pas avancer. Et puis M. Ouattara aussi. moi, je lui demande pardon. Si vraiment il veut la réconciliation en Côte d'Ivoire, et qu'il laisse rappeler M. Blaise Boudé, il a été jugé et acquitté. Il a été jugé. Et sur ce point, je ne suis pas d'accord avec votre auditeur qui vient de dire que M. Babou va faire la prison. Pourquoi il va faire la prison? Parce qu'il a été acquitté. S'il était acquitté, c'est-à-dire les charges qui pesaient sur lui. Voilà.
Alors oui, mais Charles, qu'on précise, et je vais refaire la précision, ce que disait Gaoussou, il évoquait, j'imagine, hein, le braquage de la BCAO pour lequel Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison, hein, ce qui est différent de son acquittement, bien sûr, à la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, Charles, de votre intervention. On a bien compris, hein, que pour vous, la jeunesse, la Côte d'Ivoire était prisonnière, hein, de ces trois hommes politiques. Je demande à Serge de patienter un peu. 33 1 55 07 58 00, c'est la libre antenne. Hein. Venez vous exprimer sur le sujet de votre choix. Il y a Simon qui voulait également parler de la Côte d'Ivoire. Simon, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Simon, bienvenue dans le journal des auditeurs. On vous écoute.
Oui, en fait, je voulais intervenir sur le sujet qui prévaut en ce moment, sur la rencontre de Bédier et de Gbagbo. Faut dire...
Ah, alors ça, c'est le désagrément quand vous nous appelez en roulant en kit-manie.
Oui.
Oui, voilà, on vous voilà. Avait perdu. Alors, cette rencontre, Bédier-Gbagbo.
Oui, je disais qu'il fallait vraiment que cette rencontre-là se fasse pour que nous sachions et que nous voyons ce qu'il y a à l'intérieur de toute cette histoire, en fait. Et nous avons écouté les deux discours qui ont été, l'autre qui contredisait l'autre, puisque Gbagbo qui n'arrête pas, depuis qu'il arrivait, de clamer comme quoi que voilà, son innocence, et ceci-là. Il oublie, nous, Ivoiriens, nous, on a oublié toutes ces choses-là. Nous sommes tous réconciliés sur le territoire. Il n'y a aucun Ivoirien qui a été empêché d'aller dans une ville ou, je ne sais pas, d'aller dans une, je vais dire, tribu, ou qui s'est fait renier ou rejeter. C'est la paix totale en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent, ils circulent tranquillement. La réconciliation doit se faire au niveau des politiques, en fait. Des trois grosses têtes là-haut. C'est là-bas la réconciliation doit se faire. Mais voyons l'attitude de M. Gbagbo. Mais on pense que vraiment, elle est loin de nous, cette réconciliation-là. Il faut que vraiment, son âge qu'il a, qu'il ait la sagesse à la hauteur de son âge et de son ancien poste de chef d'État, qu'il se comporte ainsi. Parce que les discours qu'il tient, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est en train de réveiller des choses parmi la population. Et vraiment, c'est pas agréable à entendre Gbagbo parler ainsi.
Pour vous, il n'est pas sur la voie de la réconciliation, mais peut-être plus sur la voie de la vengeance.
Voilà, sur la voie de la belligérance, la vengeance. Il est en train de clamer plein de choses. Bon, on a dépassé toutes ces choses-là. Gbagbo, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, c'est pas... Un enfant de 10 ans, il marche, il est conscient de plein de choses. Donc voilà, il faut le dire. Et moi, j'ai beaucoup aimé, par contre, le discours de Bédier, qui est en train de rentrer en ligne, qui marche maintenant sur les rails. Et ça, c'est bien, c'est plaisant. C'est aussi une petite leçon que Gbagbo doit en tirer du discours de Bédier. Et vraiment, il faut que... Ce qui le déplore, Gbagbo a fait 10 ans de, on va dire, de hors de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas au courant de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui l'entourent, quels conseils il lui donne? Comment il le guide? Comment il l'oriente? C'est eux-là qui sont en train de le perdre.
Pour vous, il a perdu pied avec les réalités du pays, oui. si j'entends bien, Simon.
Carrément, il a perdu vraiment le fil de... Le fil de conduite du pays, il a perdu la ligne. Là, aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont projetés dans l'avenir, dans l'évolution. Aujourd'hui, on va voir le métro. Voici le développement qui... On nous, le président Alassane Ouattara aura toujours le pas en avant sur eux parce que lui, il parle de l'avenir des Ivoiriens. Bon. Il parle de construction. Eux, ils sont encore en train de nous ramener dans des choses de guerre,
On entend bien, Simon, on entend bien que pour vous, la réconciliation est un fait entre les Ivoiriens, reste encore qu'elle soit faite entre les politiques. Merci beaucoup, Simon, de votre intervention. Excellente journée à vous. On accueille Serge. Serge, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Hartmann.
Bonjour, Serge. Alors, vous vouliez revenir sur les intempéries au Cameroun et en Europe et faire une petite comparaison entre les deux. Dites-nous tout.
Oui, alors Madame Hartmann, en fait, la dernière fois, en fait, c'est-à-dire il y a quelques semaines, on a eu des inondations à Douala, Et plus précisément, il y a un monsieur qui est partisan en fait du MRC, un parti politique au Cameroun, qui montrait des images sur les réseaux sociaux où il montrait le nouveau pont qui avait été construit au Cameroun, en fait, dans la ville de Douala, et qui montrait ce pont qui avait été inondé. Et ce monsieur disait tout simplement que le gouvernement avait failli parce que voilà un nouvel ouvrage qui avait été fait. Et voilà ce qui arrive. Et je me rappelle très bien, j'avais justement intervenu en disant aux Camerounais, en fait, en m'insurgeant, en disant que je ne comprenais pas ce qui se passait actuellement au Cameroun. C'est-à-dire que nous développons une culture de l'autoflagellation, c'est-à-dire que quoi qu'il puisse être fait au Cameroun, on a toujours tendance à accuser le gouvernement. Et je leur disais justement qu'il fallait faire très attention et que ce phénomène-là, pour moi, n'était qu'un phénomène de dérèglement climatique et que c'était des phénomènes qu'on retrouvait partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, où je pourrais dire malheureusement, ce que je disais me donne raison. Vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui en
Allemagne, il y a au moins 80 morts.
Voilà, où il y a eu plus de 80 morts aujourd'hui.
Dans des pluies torrentielles, oui.
Voilà, d'autres pays comme la Belgique, il y a déjà en dénombre 12 morts. Et donc, ces personnes-là, je voudrais justement, ces gens qui passent leur temps à dénigrer leur propre pays, je voudrais leur dire aujourd'hui de passer à l'antenne comme ils l'ont fait et de dire effectivement, pourquoi est-ce que dans un pays comme l'Allemagne qui est développé, parce qu'ils aiment toujours comparer les pays africains aux pays européens, alors que nous sommes des pays jeunes, nous avons à peine
60 merci, ans d'indépendance. Serge.
Ces gens-là qui puissent s'exprimer et dire maintenant, est-ce que c'est Paul Biya qui a...
Eh bien, s'ils vous entendent, qu'ils laissent un message sur le répondeur. On a bien compris votre raisonnement, mon cher Serge, mais vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. Il me reste à peine le temps de vous dire au revoir et de vous remercier, chers auditeurs, et de vous dire également qu'on se retrouve lundi pour parler notamment du Togo. Les concertations nationales viennent de s'achever, on en parle lundi. Bon week-end.